Dialogue entre Congolais à présent avec Jean-Claude Toumba Kamanga, la présentation.
Merci Tina Salama, bonsoir. Situation sécuritaire à Uvira, une dizaine de morts à la suite d'un échange de tirs entre FARDC et des assaillants, parmi lesquels des éléments Mai Mai et des éléments FNL burundais. Ces éléments venaient de vider la prison centrale d'Uvira de ses détenus. Les FNL burundais ont démenti leur implication dans cette attaque. Pourquoi ces assaillants ont-ils libéré les détenus de cette prison? Quelle est la situation sécuritaire à Uvira et ses environs? C'est le thème de cette émission. Nos invités ont pour nom Louis-Léonce Mouderoy, gouverneur de la province du Sud-Kivu, Moïse Nyarugabo, sénateur membre du parti politique RCD, Rassemblement Congolais pour la Démocratie, et Cyprien Biringingwa, il est président de la société civile du Sud-Kivu. Bienvenue à tous dans cette émission.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
Situation sécuritaire à Uvira, une dizaine de morts à la suite d'un échange de tirs entre FARDC et les assaillants, parmi lesquels des éléments Mai Mai et FNL burundais. Il venait de vider la prison centrale d'Uvira de ses détenus. Pourquoi ces assaillants ont-ils libéré les détenus de cette prison? Notez, au sujet de cet échange de tirs, que la situation est restée calme à Uvira jusque ce soir. Mais c'est après une matinée très perturbée justement par des tirs nourris qui ont opposé ce matin les FARDC aux forces négatives. Après les opérations de ratissage dans les collines qui surplombent cette cité, le bilan réduit à la hausse fait état de 12 morts et plus de 15 blessés selon les officiels. Les assaillants repliés dans les collines avaient réussi le matin à forcer l'évasion de plus de 200 détenus de la prison centrale Mulungé d'Uvira. Les autorités territoriales annoncent aux dernières nouvelles qu'une dizaine parmi ces évadés sont rentrés d'eux-mêmes à la prison. Détail avec vous, Fiston Goma.
Les commandants de la 10e région militaire, le colonel Baudouin Akabaka, est arrivé cet après-midi à Uvira dans le cadre du renfort de la sécurisation de la population. Avant son arrivée, les FARDC avaient réussi à maîtriser la situation après les échanges des tirs. Cet après-midi, les autorités civiles et militaires ont fait tout le nécessaire pour tranquilliser la population tourmentée par les détonations à l'arme lourde et légère. Selon le bilan fourni par les autorités locales, 12 personnes ont été tuées par balle, 9 du côté assaillant, 2 du côté des forces de l'ordre et 1 civil. Les auteurs de ces attaques ne sont pas connus. Du côté des autorités militaires, l'un des assaillants capturés par les FARDC se présentait comme faisant partie d'un groupe coalisé dont certains éléments auraient été recrutés au Burundi et sur place dans Uvira. De leur côté, les groupes armés Chikito, Zabuloni ainsi que la communauté Banyamulenge ont rejeté en bloc leur implication dans ce qui est arrivé. Une situation qu'ils disent déplorer tous et souhaitent qu'elle ne détruise pas la cohésion sociale déjà bâtie entre les communautés locales. D'Uvira, Fistongo Mamayabala, Radio Kapi.
Interrogés par l'AFP à Bujumbura, les FNL ont catégoriquement démenti toute implication dans cette attaque. D'après leur porte-parole, cité par la même source, c'est un mensonge pur et simple, dit-il. Les combattants des FNL sont aujourd'hui placés dans des sites de rassemblement ou de pré-rassemblement au Burundi dans le cadre du processus de paix dans notre pays et aucun ne se bat en RDC. Fin de citation. Bonsoir, monsieur le gouverneur Louis-Léonce Mouderoy.
Oui, bonsoir.
Oui, monsieur le gouverneur, comment vous pouvez d'abord réagir par rapport à la situation telle que présentée tout à l'heure par notre confrère Fiston Goma?
Oui, ma réaction, c'est qu'elle n'est pas très très loin de la réalité par rapport au bilan. C'est parce que les mêmes indications que nous avons. Et par rapport naturellement au fait que des groupes cités nient les faits, je trouve aussi ça tout à fait normal dans la mesure où nous n'avons pas la certitude que ces groupes-là maîtrisent leurs troupes à 100%. S'ils peuvent dire qu'ils maîtrisent leurs troupes à 100%, il n'est pas évident qu'ils ne peuvent pas manquer ce qu'on appelle des éléments indisciplinés qui sont à la quête du bien facile, sont attaqués par n'importe quel soit opérateur politique, soit n'importe quel vendeur de troubles dans la région. Mmh. Et donc, c'est tout à fait normal qu'ils puissent aller dans les délégations, mais nous avons des faits, ils sont là, et les faits parlent d'eux-mêmes.
Mmh. Alors, il y a donc les groupes armés Chiquito, Zabuloni, ainsi que la communauté Banyamulenge qui ont rejeté en bloc aussi leur implication dans ce qui est arrivé. Finalement, on peut se demander, c'est qui ces assaillants finalement, monsieur le gouverneur Mouderoi?
Oui, je crois, après ce que nous pouvons dire, l'évaluation de la mi-journée, c'est qu'il y a eu une sorte de coalition, je peux dire, ce qu'on fait d'opportuniste, avec une conjonction d'intérêts aussi opportunistes. S'agissant de FNL, nous savions qu'il existait des éléments FNL qui étaient en prison à Ouvira. S'agissant de groupes Maï Maï, nous savions qu'il y avait effectivement quelques bandits qui se disaient être de Maï Maï Zabuloni et qui étaient aussi sous les verrous. Et donc, par rapport à l'objectif de libérer les prisonniers, il y avait une conjonction d'intérêts opportunistes à ce niveau-là. Mmh. Et probablement, d'après d'autres renseignements que nous avons, des éléments, des objectifs du genre revendication politique par rapport au processus qui est en cours d'intégration forcée ou accélérée ou classique. Et donc, il y a une sorte de conjonction d'intérêts opportunistes par rapport à l'environnement général de milieu. Voilà ce que je peux dire.
Mais conjonction d'intérêts opportunistes de certains groupes armés. Moïse Nyarugabo, bonsoir.
Bonsoir.
Oui, quelle est votre lecture ou appréciation de ces faits?
Je n'ai pas suivi l'entièreté de l'intervention, je crois, du gouverneur, si j'ai bien suivi la voie. Mais au travers de votre question, je vous ai entendu citer les Maï Maï Chiquito, Zabuloni, mais vous avez cité aussi les Banyamulenge. Je ne sais pas si c'est aussi un des groupes qui a participé à l'attaque de Vira. Moi, ma lecture des événements et des informations que j'ai, c'est que ce sont les FNL, donc qui est une milice burundaise, mais aussi les Maï Maï, justement, du groupe Zabuloni et Chiquito qui aurait attaqué la ville en voulant non seulement prendre la ville et libérer la ville comme certains le disent, mais aussi pour libérer leurs prisonniers. Je pense que le vrai problème, c'est que on n'a pas encore formé véritablement une armée nationale républicaine efficace qui peut faire face à ce genre d'attaque. Si à une matinée, des groupes armés comme ça, quelle que soit leur organisation, peuvent presque prendre la ville, attaquer tous les sites militaires jusqu'à la prison, ouvrir toutes les portes de la prison et faire sortir tous les prisonniers, là, il y a quand même un problème. C'est au niveau de la formation de l'armée, de sa capacité, de sa puissance de feu et de sa résistance.
Oui. Et parlant de la communauté Banyamulenge, je voulais tout simplement dire que ces groupes, notamment Chiquito Zabuloni et la communauté Banyamulenge, ont tous les trois donc rejeté en bloc leur implication dans ce qui est arrivé. Alors, Cyprien Beringingwa, bonsoir.
Bonsoir.
Oui, finalement, on ne connaîtra pas, hein, parce qu'on a suivi le gouverneur, il a dit que c'est une conjonction d'intérêts opportunistes de différents groupes. Comment vous, au niveau de la société civile, vous accueillez justement ce qui s'est passé?
Oui, effectivement, comme nous l'avons déjà suivi, effectivement, il est vraiment difficile de qualifier les éléments qui ont opéré dans le territoire du Jura, plus particulièrement dans la cité du Jura. Des sources indépendantes, disons, de la société civile sur place, il y a effectivement une corrélation entre ce que son excellence le gouverneur a dit et ce que nous avons effectivement entendu, des éléments FNL, en conjonction avec quelques éléments Banyamulenge, et sont justement, on fait un raid sur la ville depuis 10h du matin lorsqu'ils étaient en train de monter leur coup, mais effectivement, les armes n'ont profité que vers 4 heures. Donc, l'objectif, tel que nous avons entendu, était justement de libérer leur leader qui était effectivement en prison au niveau de Douvira. Donc, il est clair que parmi les assaillants, on a identifié des éléments de la communauté Banyamulenge, parce qu'effectivement, on a même signalé parmi les morts un militaire Banyamulenge qui s'est retrouvé dans Kasenga, qui est une des parties de la ville de Douvira, et plus particulièrement de Kassidan, du côté du quartier général de Zabouloni. Donc voilà quelques éléments que je peux ajouter à ce qui a été déjà dit.
Okay. Monsieur le gouverneur, Léon Soudéroi. Oui, monsieur le gouverneur, par rapport aux victimes, est-ce que vous confirmez que parmi les victimes, il y a un Congolais Banyamulenge, militaire?
Oui, ce que je peux plutôt dire par rapport au bilan. Nous savons qu'il y a effectivement deux militaires, enfin de ceux qui ont succombé, et dont aussi un élément de la police nationale. Une taxatrice qui a reçu une balle perdue, parce qu'elle était sauvée à domicile. Donc ce sont des manifestations claires. Et parmi effectivement du côté assaillant, on a identifié un élément FDLR qui est reçu d'être en aide de camp de celui qui semble, d'après les premières indications que nous avons, mais que nous devons encore confirmer sur base de l'évaluation que nous ferons tout à l'heure avant minuit, qui semblait encadrer ces opérations-là. Donc je confirme effectivement ces éléments. Mais ce que je voulais dire par rapport à la réaction de l'honorable sénateur Nyerere Gbagbo, c'est que l'armée républicaine, c'est une armée qui est en formation, et je crois qu'il participe comme citoyen du pays à la formation de cette armée républicaine. C'est une affaire de tous, d'ailleurs. Mais aussi, je crois qu'il faut éviter d'être, j'en ai dit, négativiste. Quand je lis la manière dont les FARDC ont réagi aux toutes premières heures de la matinée lorsque cette attaque a été perpétrée, je peux dire qu'il faudra plutôt féliciter les FARDC. Il faudra absolument les féliciter dans la mesure où, tenez-vous bien, au niveau des civils, il n'y a qu'un seul mort. Je ne dis pas qu'il faut s'en féliciter parce qu'il y a des morts. Il y a ce mort-là. Mais quand même, nous avons essayé d'éviter le maximum de dégâts parmi les civils. Et donc, la première mission d'une armée, c'est aussi d'assurer la protection civile. Deuxièmement, on est parvenu à repousser ces assaillants. On les a repoussés en essayant de faire en sorte qu'il y ait le moins possible de dégâts collatéraux. Et je crois qu'il faudrait plutôt avoir, j'allais dire, une lecture beaucoup plus positive du travail qu'a battu ce matin nos forces armées de la République démocratique du Congo. Et comme votre correspondant dit, lorsque le commandant d'intérim adjoint de la 10e région de Libère, le colonel Lankabaka, que nous avons dépêché sur les lieux de le matin, est arrivé, il avait trouvé qu'il y avait déjà plutôt un travail de ratissage qui a été entrepris, et donc la protection de la ville, de la cité, a été assurée par nos troupes. Voilà ce que je pouvais dire.
Donc, en un mot, M. le gouverneur, Ouvira est calme ce soir?
Actuellement, Ouvira est tout à fait calme. Ouvira est rentré dans le calme, les opérations de ratissage continuent, et d'autres dispositions sont prises pour assurer à ce que ce genre d'attaque ou d'action ou d'initiative ne soit plus répétée dans cette partie de notre province et ailleurs d'ailleurs.
Voilà, Moïse Nyerere.
Monsieur le journaliste, je suis étonné que le monsieur de la société civile ne soit pas en mesure de citer les Mai Mai. Il dit que ce sont les FNL et les éléments Banyamulenge. Et il n'a pas le courage de citer les Mai Mai. Pourtant, parmi les assaillants, il y a un qui a été capturé. Vous le savez, monsieur le journaliste. Il est vivant, il parle. Moi, les nouvelles que j'ai, c'est qu'il dit c'est une affaire de FNR et de Mai Mai. Il a cité, il a précisé les groupes. Il est vivant, il est à Ouvira. Alors, lorsque je comprends maintenant d'où est venue l'information du matin, qui faisait croire dans la cité d'Ouvira que ce sont les Banyamulenge qui ont attaqué la ville comme les assaillants sont venus des collines. Je comprends d'où ça vient. Donc ça vient de notre ami de la société civile ou de leur organisation. Ce qui a fait que les Banyamulenge dans la ville soient fouillés, arrêtés, parce qu'on disait que c'est eux qui ont attaqué la ville. Et il y avait un militaire Banyamulenge qui a succombé. Ce dont je ne suis pas sûr, c'est que je ne crois pas. Mais s'il y en avait un, c'est un militaire de FARDC. En quoi il devient assaillant? Un militaire Banyamulenge assaillant viendrait d'où? Les autres Banyamulenge armés se trouvent à Minembwe. C'est à une marche de 4 jours, donc à 4 jours, 5 jours de marche assez pour arriver à Ouvira. Ceux qui sont à Ouvira sont des militaires des FARDC. Alors, ce genre d'insinuation, encore que, à supposer même qu'il y ait un élément armé, indiscipliné, Minembwe, pourquoi ça devient, pourquoi lui doit porter le nom de sa communauté? Pourquoi les Mai Mai, on ne les appelle pas des groupes Bafouleur ou Bazira ou Badembe ou Bashi ou d'autres? Pourquoi? S'il y a même un criminel, Munyamulenge doit lui porter le nom de sa communauté et engager sa communauté. Je pense que ce genre de stigmatisation de la part de la société civile, qui représente toute la société civile de la province, est inacceptable. Oui. Par rapport à ce que dit le gouverneur, je suis totalement d'accord avec lui. Nous nous en félicitons que les FARDC soient venus à bout des assaillants. Nous aurions voulu même que cela n'arrive pas, que les informations, que les renseignements militaires sachent qu'il y a une attaque qui se prépare et qu'elle soit contrée avant même que la ville ne soit mise dans la situation où elle a été ce matin. Donc, nous disons la même chose. Justement, l'armée est en formation, mais dans l'entretemps, nous pouvons dire qu'il n'y a pas d'armée capable justement de faire face à ces gens d'attaque. C'est pour cela que cela peut arriver.
Voilà.
On ne condamne même pas,
oui. Mais
on regrette. On constate que l'armée n'est pas encore en mesure d'avoir des informations, de savoir s'il y a une attaque qui se prépare et de pouvoir
les contrer
avant qu'elle atteigne la ville qui n'est pas ce genre de plus de balles dans la cité et qui est même de mort civile.
Oui. Alors, comment vous répondez, Cyprien Berengingwa, vous qui êtes président de la société civile, du Sud Kivu, par rapport à cette stigmatisation que dénonce Moïse Nyorodabo?
Oui, monsieur le journaliste, je crois que il faut dire que je voudrais apaiser l'honorable sénateur. Il n'y a pas de stigmatisation possible de la société civile du Sud Kivu par rapport à la communauté Banyamulenge. Il sait très bien que la société civile s'est beaucoup impliquée dans beaucoup d'actions de pouvoir justement pacifier la province du Sud Kivu, mais il ne peut pas aussi saisir le fait que je n'ai pas cité le Mai Mai pour justement sauter sur cette occasion par rapport à la stigmatisation à laquelle il fait allusion. Il faut dire que je ne nie pas justement la présence de Mai Mai parmi les assaillants. Justement, on a parlé plus particulièrement des éléments incontrôlés du groupe des Zabouloni, sachant bien sûr que nous le savons, le groupe des Zabouloni a été divisé depuis un certain temps, et donc il est possible qu'il y ait des éléments les Zabouloni qui puissent participer à cet assaut de la ville d'Ouvira. Donc, il n'y a pas de stigmatisation possible. Nous sommes en train de faire ici un débat, je crois, constructif. Et aucun Munyamulenge n'est stigmatisé. Et pour preuve, n'est-ce pas, nous avons pas mal d'actions avec la communauté. Et cette cohabitation évolue très bien. Mais il faut craindre justement par rapport à ce qui se passe à Ouvira que la situation ne prenne une certaine ampleur. Et parce qu'il y a eu déjà pas mal d'incidents dans cette partie de la province du Sud Kivu.
On va en parler justement de
ça. On sait très bien qu'il y a des accords, des engagements, notamment des Mai Mai, qui a été signé récemment en présence du ministre de la Défense.
Oui.
Mais il faut reconnaître qu'il y a, par exemple, les FRS qui n'a pas participé à ce processus de pacification et d'engagement de groupes armés.
Oui.
Et donc, il faut, nous nous exprimons une crainte, justement,
oui.
de ce qui arrive au niveau du GIA, mais constitue une opportunité, justement, pour que l'affaire prenne une certaine ampleur, alors que ça aurait dû, justement, s'arrêter à ce niveau-là. Surtout que nous avons des menaces de confirmation
oui.
de la part de son Excellence, monsieur le gouverneur, que l'armée fait un bon travail, et nous pensons vraiment que ce travail devra être bien fait, parce que nous, nous avons toujours des craintes que l'affaire ne puisse prendre une certaine ampleur.
Voilà, justement, c'est de cela que nous allons parler dans la deuxième partie de cette émission. Mais avant d'y arriver, les auditeurs nous ont écrit, bien Mungu Kaligi d'Uvira, au sud Kivu, ils voudraient savoir ce que font l'armée et les autorités congolaises pour éviter ce genre de situation qui, selon lui, pourrait insécuriser les frontières. Anakle Kakessa, depuis Marabo à Bunia, province orientale, voudrait savoir quelles sont les précautions déjà prises par le gouvernement congolais contre les assaillants à Uvira, la population de l'Est en a marre de la guerre et les exactions perpétrées par les inciviques. Sur base de quoi est-ce que le gouvernement congolais a déclaré qu'il y a déjà la paix à l'Est du pays alors que des groupes de milices demeurent encore actifs en RDC? Comment vous leur répondez, M. le gouverneur, lui, Léonce Modéroy?
Oui, je ne sais pas si je réponds à toutes ces questions ou... Je rebondis sur le débat de la question de l'environnement.
Ouais, vous pouvez répondre d'abord à nos auditeurs. Quand même, c'est pas pour rien qu'ils ont écrit. Et puis après, ça ne vous empêche pas de rebondir sur ce que les autres ont dit.
Merci beaucoup. S'agissant de la question de nos auditeurs, je les remercie d'abord de l'intérêt qu'ils portent sur la question et donc sur la province aussi de ce qui ou des problèmes qui concernent l'Est en général de la République démocratique du Congo. Les autorités ont pris une série de dispositions pour que ce genre d'agissement ne se reproduise plus. La première disposition qui est un programme, c'est le programme d'intégration des groupes armés au sein des FARDC pour qu'à un horizon très, très, très réduit, nous arrivions à éradiquer l'existence de tous les groupes armés à l'est de la République démocratique du Congo et particulièrement au sud Kivu. C'est la disposition, je peux dire, qui est en train de s'exécuter et qui est en train de connaître sa phase critique, celle de voir ces différentes intégrations se mettre en œuvre. Au moment où je vous parle, nous avons déterminé une réunion avec la décoordinateur Maluma, qui est dans la ville de Bukavu, afin de pouvoir effectivement accélérer ce processus. La deuxième disposition par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est que les FARDC continuent à faire leur travail normalement. Nous allons continuer les opérations de ratissage. Nous allons essayer de ramasser toutes les armes qui ont circulé depuis plusieurs années dans la région entre les mains des civils. Et bien entendu, nous allons continuer à renforcer les mesures qui tendent à déployer la police sur les lieux pour que la police puisse être encadrée, encouragée, appuyée matériellement. La police nationale de Chukivu vient d'acquérir du matériel il n'y a pas longtemps, encore très véhicule, des liaisons et d'autres matériels pour son déploiement dans toutes les parties de la province de Chukivu.
Oui, donc vous voulez...
Voilà les dispositions qui nous présentent.
Oui, voilà. On va revenir, hein, parce que tout à l'heure, Cyprien Beringingwa émettait sa crainte face à certains groupes qui restent encore actifs. Il a cité le cas du FRF, mais juste le temps de rappeler à nos auditeurs que nous parlons bien de la situation sécuritaire à Uvira, où une dizaine de morts à la suite d'un échange de tirs entre FARDC et les assaillants, parmi lesquels des éléments Mai Mai et FNL burundais, des éléments qui venaient de vider la prison centrale d'Uvira de ses détenus. Bien entendu, il y a eu le démenti des FNL burundais qui ont démenti leur implication dans cette attaque. Nous en parlons avec le gouverneur du Sud Kivu, lui, Léonce Mouderoy, Moïse Nyarugabo, les sénateurs membres du RCD, Rassemblement Congolais pour la Démocratie, et Cyprien Beringingwa, président de la société civile du Sud Kivu. Quelle est la situation sécuritaire à Uvira et ses environs? Nous en parlons avec, bien sûr, nos invités dans la suite de cette émission, mais d'abord le rappel de nos contacts.
Dialogue entre Congolais. Vous pouvez encore participer à cette émission en téléphonant au 081 890 66 78 ou encore par SMS au 081 05 15 778.
Quelle est la situation sécuritaire générale à Uvira et ses environs? Fiston Ngoma nous explique dans cet entretien avec Alain Hirung.
Bonsoir Fiston Ngoma, vous êtes notre correspondant à Uvira. Comment pouvez-vous présenter la situation générale sécuritaire dans la région que vous couvrez, d'abord du côté de Fizi?
Bonsoir d'abord Alain Hirung. Les deux dernières semaines ont été marquées particulièrement par une sorte de recrudescence des cas d'insécurité. D'abord dans le haut plateau de Menengwe, cette rencontrée concerne trois territoires dont Uvira, Fizi et Mwenga. Rappelons que le 1er et le 2 avril dans la localité de Kalingi, à 12 km de Menengwe centre, deux groupes armés se sont violemment affrontés selon la société civile, les autorités territoriales de Fizi et les porte-parole du groupe Zabuloni. Les contrôles des taxes dans ces marchés et l'assassinat d'un homme proche d'un commandant Maïmaï par le présumé Banyamulenge serait la racine de cette tension interethnique. Conséquence, d'après les mêmes sources, les populations se seraient déplacées dans plusieurs localités réparties dans les trois territoires. Et suite à ces accrochages, après l'ONG AMI, ATES, une autre ONG internationale basée dans la localité de Mukira, a suspendu momentanément ses activités en attendant que les conditions sécuritaires soient améliorées. Donc, pour cause, la menace de mort proférée par les Maïmaï contre des agents des AMI, le Maïmaï accuse certains de ses agents d'être des espions à la solde de Banyamulenge. La société civile pense que c'est un comportement dû au climat de méfiance interethnique en territoire des Fizianais.
Fiston Ngoma, et du côté Uvira, comment la situation se présente-t-elle?
En fait, du côté Uvira, plusieurs cas de vols diurnes avaient été enregistrés par des hommes armés ciblant aussi bien les opérateurs économiques, les transporteurs sur les tronçons routiers Uvira-Bukavu que les paysans dans la plaine de la Rosie et le moyen plateau de l'Emira. Plusieurs fois, des hommes armés extorquent les conducteurs de motos sur l'axe Rubanga à l'Emira, précisément en Nyakandongo, et des populations civiles dénoncent aussi des cas de pillage de leurs récoltes par des hommes armés.
Est-ce qu'on peut avoir une idée sur les principaux acteurs impliqués dans ces cas d'insécurité dans Uvira et Fizi?
En fait, il est difficile d'identifier les auteurs de ces cas d'insécurité parce que personne d'entre eux ne reconnaît ces forfaits, mais pour les cas d'Uvira, souvent, le bandit se déguise dans tel ou tel autre groupe armé avant de voler, de violer, avant de se retirer dans l'arrière-base de leur vrai groupe. C'est ainsi que tous les groupes armés nationaux et étrangers, des civils ainsi que des forces régulières sont souvent cités dans ces cas du côté Uvira. Et à Fizi, c'est plutôt les conflits d'intérêts économiques alimentés souvent par la méfiance interethnique entre les communautés locales. Donc, les disputes autour des pâturages, des taxes dans les marchés sont aussi signalées. Mais selon les acteurs locaux, tant que le gouvernement n'a pas encore réussi à désarmer les groupes armés de la région et les civils qui sont aussi armés et démilitariser cette région, ce sera une peine perdue quoi, pour pacifier la région.
Merci Fiston.
Merci Alain.
Alors, Monsieur le gouverneur, Luléance Modéroy, votre réaction après ce tableau que vient de nous présenter nos deux confrères?
Oui, je vais plutôt rebondir par rapport à la dernière phrase, tant que le gouvernement ne sera pas désarmé ces différents groupes armés, éradiquer ces différents groupes armés nationaux comme étrangers, la situation pourra être toujours des plus précaires. Et je vais lui répondre tout simplement, c'est ce que nous sommes en train de faire. Et c'était la réponse à la question, ou du moins aux questions des auditeurs. La première disposition, c'était de pouvoir arriver à travers le programme Amani, d'intégrer les différents groupes armés dans le FARDC pour ceux qui veulent bien intégrer et les autres être éligibles au programme d'appui communautaire. Et je crois que c'est une grande évolution qui se fait actuellement dans la province, dans la mesure où il y a une conjonction d'opérations qui est en train de se faire, faut le dire. Il y a les opérations conjointes contre les FDLR qui sont menées par le FARDC à l'appui avec la MINUC. En même temps, nous avons des opérations de ratissage qui se font au niveau de l'UA et la situation dans le haut plateau est actuellement stabilisée. Tout cela a amené un état d'esprit du côté de ces groupes armés nationaux que nous avons eu à identifier dans le cadre du programme Amani,
oui,
à la disposition d'intégrer le plus rapidement possible les fournisseurs.
Oui.
Nous avons donc en termes d'horizon avant le courant mois de mai pour être beaucoup plus réservé, qui ne pourra plus jamais parler des conflits armés, en tout cas dans la province du Nord du Sud Kivu. Cette opération est en train de se terminer dans la province du Nord Kivu. Elle va commencer dans la province du Sud Kivu d'ici autour du 15 pour ne pas être davantage plus détaillé. Et ça, c'est un objectif majeur à atteindre. Ce sera un grand pas que nous allons accomplir.
Merci. Cyprien Beringuingua, est-ce que vous pensez que les événements qui sont arrivés ce jeudi à Uvira, est-ce que vous pensez qu'il y a un lien avec ceux survenus sur les hauts plateaux de Minembwe?
Oui, c'est-à-dire que, en fait, notre ami Christian, bon, il a oublié justement de montrer que il y a eu pas mal d'incidents, notamment dans les hauts plateaux. Et on sait très bien qu'il y a quelques semaines, il y a eu tentative d'occupation de certains villages, notamment les villages de Kipuku, qui est le chef de Mai Mai Kapoko, par les FRS. Il a fallu, justement, heureusement, des négociations entre les deux groupes pour que la situation puisse se calmer. Mais il y a aussi, il y a eu tentative, n'est-ce pas, d'attaque des villages du côté Bafuliru. Et d'ailleurs, on a arrêté à peu près deux sujets Fuliru, citoyens Fuliru qui sont morts dans cette attaque. Et c'était encore par les FRS. Mais il faut craindre franchement que de ce côté, justement, de la manière dont le processus de pacification qui intègre le groupe d'armée se passer sans le FRS, il y a lieu de craindre justement que il y ait des problèmes par rapport à cela. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que certains groupes armés, parfois, bien qu'ils vont signer un accord de paix avec le gouvernement, parfois ils ne comprennent pas l'attitude des éléments FRS qui risquent justement de pouvoir faire résilience par rapport à la question des hostilités. Donc, notre crainte reste là, et il est important, justement, comme le gouverneur l'a dit, qu'on puisse attacher une importance capitale par rapport à ces groupes qui se marginalisent par rapport à tous les processus, justement parce que ils risquent de faire que les autres groupes puissent ne pas justement s'engager d'une manière ferme dans les processus de pacification. Mmh. Et donc, pour nous, il est très très important, voire même urgent, que le programme Amani, qui envisage justement le programme d'intégration accélérée et d'intégration classique, voire de démobilisation de certains des groupes armés, puisse rapidement se mettre à l'œuvre pour que l'accord qui a été signé puisse apporter de résultats escomptés.
Oui, qu'est-ce que votre avis, Maurice Narangabo, par rapport à cette présence des FRF encore actifs, hein, selon Cyprien Beringuingua, qui continue à assumer sa crainte?
Je pense que nous tous, moi personnellement, je soutiens que tous les groupes armés finissent pour parler avec le gouvernement et s'intègrent ou sont intégrés dans l'armée, pour qu'effectivement on ne puisse plus parler des groupes d'armées comme vient de le dire le gouverneur. C'est notre vœu, c'est notre prière, c'est notre souhait à nous tous. Mais avant cela, je pense que ça ne devait pas être un prétexte. Parce que si notre ami Cyprien dit qu'il y a une tentative d'attaque des SRS pour occuper un village, je crois, qui est la place forte de notre groupe Mai Mai, c'est possible. Je n'étais pas au courant. Mais, au-delà de ça, il y a eu une attaque effective des villages de Banyamulenge dans le haut plateau par les Mai Mai. Alors, et il y a eu 3 morts au moins, en tout cas les noms que j'ai, il y a eu 3 morts, il y a eu plus ou moins 6 blessés. Il y a beaucoup de villages qui ont été vidés. Quand ils disent qu'il y a eu des combats à Kalingi, mais ils ont même finalement avancé jusqu'à Bidegu, à Kakenge, à Mulisa. Tous ces villages ont été vidés de leurs habitants, ils ont fui les combats de Mai Mai. Et ce sont des villages occupés à presque 100% ou 99% par les Banyamulenge. Et moi, je n'ai pas encore entendu parler des SRF dans ce combat-là, parce qu'eux, ils sont à Mikenge, à Kamombo. Parce que par contre, les FRDC, qui aujourd'hui se battent avec ces Maïmaï, et c'est pour cela que le commandant de région, Mazouz, se trouve à Mikenge. Donc, je crois que le problème, ce n'est pas seulement les SRF.
Oui.
Parce que ces Maïmaï qui ont attaqué Mikenge, ce ne sont pas SRF. Ces Maïmaï et SNL qui ont attaqué Uvira, ce ne sont pas SRF. Donc, même ceux qu'on pense qu'ils ont été intégrés, mais s'ils peuvent quand même attaquer Uvira, s'ils peuvent attaquer Mikenge, quelles que soient les raisons, je pense qu'il y a là un problème. Donc, tout en souhaitant que tous les groupes armés, s'ils ont des choses à demander, qu'ils les demandent, le gouverneur est disponible, il est à leur écoute et d'autres cadres qui travaillent dans le programme Amani, même le gouvernement ou l'armée nationale, ils sont à leur écoute, qu'ils présentent leur cahier de charge, qu'ils s'intègrent, qu'ils reviennent dans l'armée, c'est notre souhait et nous le leur demandons.
Mais
je me dis,
oui.
Cela ne doit pas être aujourd'hui un prétexte pour dire que tout ce qui ne va pas, c'est uniquement ou simplement à cause de ceux qui ne sont pas encore intégrés, parce que j'imagine que c'est Maïmaï. Qui ont attaqué Uvira, c'est Maïmaï qui ont attaqué Mikenge, ils sont intégrés.
Voilà. Alors, Moïse Nyangabo, bon, les groupes armés non encore intégrés ou certains qui sont intégrés continuent à être actifs comme on l'observe au sud Kivu, mais d'après le reportage de notre confrère, il nous a aussi parlé du climat de méfiance interethnique qui est encore observé. Comment vous l'expliquez-vous?
Ce climat de méfiance, je donne deux raisons à mon avis. Je considère que ce climat de méfiance est le résultat de l'échec ou de l'absence d'une politique de réconciliation. Et je considère aussi que ce climat est le résultat de ce genre de stigmatisation. Tant qu'on n'aura pas fait un travail de fond pour que les gens se mettent ensemble, se parlent, et c'est important. Je sais qu'on ne peut pas tout faire à la fois. Il y a beaucoup d'urgences, il y a beaucoup de priorités, particulièrement pour notre gouverneur. Mais je suggère que ce genre de moments existent pour que les Babembe, les Banyamulenge se mettent ensemble, discutent. Les Babembe, les Bafulero, les Banyamulenge, les Bafulero, les Banyamulenge, les Barega, qu'ils se mettent ensemble par proximité, en fonction des localités qu'ils habitent, qu'ils discutent. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui résultent de simples rumeurs, de simples informations fausses, un peu comme ce qui s'est passé ce matin. Je vous dis, monsieur le journaliste, je vous dis que ce matin, il y a des gens qui avaient commencé à chanter à Uvira, que si on avait nettoyé Uvira comme on a fait à Bukavu, il n'y aurait pas de problème, parce qu'on leur avait dit que ce sont les Banyamulenge qui ont attaqué. Donc, je suis sûr que même, à l'instant où nous parlons, à Uvira, il y a des gens qui continuent à croire que tout ce qui s'est passé à Uvira aujourd'hui, c'est l'affaire des Banyamulenge. Alors que c'est faux.
Merci.
Alors, quand il n'y a pas de démenti, quand il n'y a pas de vraies informations, et les gens continuent à croire des faussetés, et ils agissent en fonction de ça. Voilà pourquoi nous devons ensemble travailler pour informer, donner la bonne information. Ceux qui sont fautifs, on ne doit pas les prendre pour innocents. Mais ceux qui sont innocents, on ne doit pas les condamner. Et surtout, éviter ce genre de globalisation, de stigmatisation. Donc c'est un travail global que nous devons faire nous tous. On ne doit pas le laisser au seul gouverneur parce qu'il a beaucoup de choses à faire.
Merci.
Mais en définitive, c'est lui qui dirige cette province.
Oui.
C'est lui qui doit faire ce travail avec l'appui et l'assistance de nous tous.
Merci beaucoup, Moïse Nyangabo. On va revenir à vous, monsieur le gouverneur, Louis-Léonce Moderoy et Cyprien Beringingwa, pour rebondir sur cet aspect de la méfiance interethnique. Comment mettre fin justement à cette méfiance? Mais nous recevons Titi Mpoutou pour la suite des réactions des auditeurs. Bonsoir, Titi.
Bonsoir, Jean-Claude. Comment expliquer la prison d'Ouvira se trouvant au cœur de la ville? Peut-elle être attaquée pendant plus de 2 heures sans qu'une intervention militaire appropriée ne soit faite? S'interroge Ramazan Idouvira au sud Kivu. Luc pose la question de savoir si on peut parler de la paix à l'est ou d'un pas vers la paix. Innocent d'Ouvira au sud Kivu lui demande aux autorités locales, provinciales et nationales de prendre conscience et de renoncer à l'indifférence pour arrêter cette régulière insécurité, en se rappelant qu'Ouvira a souvent été l'ouverture aux rébellions naissantes.
On va à Mbandaka.
Henri Bakoumania de Mbandaka dans la province de l'Équateur pense que pour résoudre le problème de l'insécurité au Kivu, le gouvernement doit déclarer le Grand Kivu zone d'intervention militaire permanente.
Enfin.
Décidément, les frontières de la RDC continueront-elles à être toujours perméables? Les Burundais viennent s'ajouter aux Angolais et autres pays. Équiper l'armée, dit-il, afin d'éviter des humiliations récurrentes, signées Kassamba Wanango de Bunia, en province orientale.
Merci beaucoup, Tissine Poutou. Je vous repose la question, monsieur le gouverneur Louis-Léonce Moudéroy. Vous répondez à quelques auditeurs et puis répondez aussi à ce que vous devez faire pour essayer de cimenter la cohabitation pacifique au niveau du Sud Kivu en général et Ouvira en particulier.
Je crois que je vais commencer par rebondir sur les débats de tout à l'heure, au risque de perdre une foule des idées et peut-être même d'oublier de revenir sur cette question.
Allez-y,
parce que je vais répondre aux questions de nos auditeurs. Donc, je reviens sur la question de stigmatisation interethnique là. Je voudrais dire sincèrement quelque chose qui me gêne. Je suis tout à fait mal à l'aise dans ce type de débat. Je préfère vous le dire d'emblée. Je suis totalement mal à l'aise que des intellectuels, pas seulement ceux qui, avec qui nous sommes actuellement en débat au niveau de la radiocapie, mais même ailleurs, nous ne puissions parler que des ethnies. Daniel Moulengo, Bavira, Papoulero, Bashi, Bareza, etc. C'est désolant. C'est totalement désolant et j'avoue sincèrement me retrouver tout à fait mal à l'aise dans ce type de débat qui sont des débats totalement, essentiellement ethnicistes.
Oui, et pourtant c'est la réalité.
Totalement, le 80%, j'allais dire 90% de l'état des états d'esprit des populations dans certaines parties de notre province.
Oui, allez-y rapidement, comment cimenter la réconciliation? Parce que Moïse Nyarugabo a dit que c'est le résultat de l'échec de cette politique de réconciliation.
Oui, mais vous ne pouvez pas dire qu'il y a le résultat de l'échec qu'il faut cimenter la réconciliation lorsque vous n'avez pas stigmatisé, vous n'avez pas vu réellement les vraies causes. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'honorable Nyarugabo pour parler de l'échec d'une politique de réconciliation. En quoi faut-il avoir d'abord un état d'esprit disposé à vivre la paix et à vivre en paix? Je vais revenir sur les allégations de Cyprien. Tentative d'occupation de village, tentative d'attaque, de fouille, etc. Lorsqu'on parle de tentatives, mais moi, je crois que ce sont des aspects tout à fait négatifs d'abord. C'est un discours négatif. C'est un discours qui est de nature à se faire peur soi-même. Et on entend ça souvent ici dans la province de Jutio. Souvent, comme a dit l'honorable Nyarugabo, des rumeurs qui constituent vraiment des réalités pour certaines personnes,
oui,
qui constituent des évidences pour certains esprits.
Oui.
Et donc, moi, je crois que si en réalité, on dit qu'il n'y a pas de conflit interethnique, comment que nous allons commencer à parler de chef de réconciliation, d'une politique de réconciliation? Parce que moi, je dois avouer que il n'y a pas, à proprement parler, d'un conflit interethnique au sud Kivu. Il y a certainement un problème, un déficit de dialogue entre communautés,
oui,
et manque de dialogue ne veut pas dire nécessairement conflit interethnique,
oui,
et qui offre un champ, j'allais dire, de réflexion et d'initiative de politiciens qui sont à mal de vision politique,
oui, monsieur, voilà,
vendre, j'allais,
oui,
dire, vendre,
oui,
c'est même la terreur entre les communautés.
Oui, malheureusement.
Je crois que nous devons faire effectivement un effort,
oui,
de réflexion approfondie,
voilà,
d'une véritable autopsie dans notre société.
Oui.
Je crois qu'on peut relativiser certaines choses qui paraissent de plus en plus comme une
évidence. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps, monsieur le gouverneur.
Les électeurs sont en train de parler de groupes armés,
oui,
avec des connotations et toujours,
oui,
des ethnies, et est loin du débat du développement.
Oui, oui, monsieur, très loin. Oui, monsieur le gouverneur, malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps. Ça devient intéressant, mais on est pratiquement à la fin. On va laisser le dernier mot à Cyprien Beringingwa pour clôturer cette émission. En un mot, Cyprien, qu'est-ce que vous dites? 5 secondes. Hein.
Oui, je pense que, comme le gouverneur l'a dit, c'est clair ici, c'est difficile de, à l'heure actuelle de parler de la question des problèmes ethniques dans la province du Sud-Kivu.
Merci.
Je pense que le plus grand problème, c'est ce qui ressort.
Merci beaucoup. Merci Cyprien. Merci. Désolé de vous couper. On est arrivé à la fin. Mimi Kindou était à la technique. Merci à tous de nous avoir suivis.